Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à tous et très belle journée. C'est vendredi, on est ensemble, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ils font souvent la une de l'actualité et pour cause, ils ont explosé l'an dernier. Les refus d'obtempérer en hausse de 11% avec souvent des conséquences très graves. Vous entendrez le témoignage d'un policier gravement blessé dans une intervention. Lui n'aurait pas pu aller bien loin. Un client de Peugeot a réussi à faire condamner le constructeur français pour publicité mensongère sur l'autonomie de son véhicule électrique. Et puis, si besoin de se garer sur le parking d'un hôpital public, eh bien cela pourrait devenir gratuit. Une proposition de loi a été adoptée hier par l'Assemblée.
Il y a eu un peu plus de 28 000 refus d'obtempérer l'an dernier.
On vous en parle souvent sur RMC car les affaires se multiplient et ça se confirme dans le bilan 2025 de la délinquance publié hier soir par le ministère de l'Intérieur. La hausse est de 11% sur un an et l'année 2026 est bien partie pour battre de nouveaux records. On a encore eu un exemple hier à Avignon avec un adolescent de 14 ans qui a manqué de percuter des agents avant d'être arrêté. Des refus d'obtempérer comme celui-ci, ce policier de la BAC en a vécu plusieurs dans le sud de la France jusqu'à cette accident en 2024. Sa voix a été modifiée pour préserver son anonymat.
On donne le top interpelle et en fait, le conducteur du deux roues qui est allumé, en fait, il me fonce dessus et là, il me percute. Je fais un vol plané, j'arrive à m'accrocher à lui. Là, il me traîne, je m'éclate vraiment au sol. Lui, il continue sa route, pas un regard derrière, rien du tout. Donc, comme bien souvent dans les refus d'obtempérer, leur seul objectif, de toute façon, c'est de fuir. J'ai eu pas mal d'arrêts, j'ai eu une opération. Si les condamnations étaient plus sévères, notamment sur les atteintes aux personnes, ils diraient, ça vaut peut-être pas le coup.
Une autre augmentation, celle du nombre de personnes mises en cause pour usage de stupéfiants, plus 6%. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a commandé hier au gouvernement un plan sur les douanes pour muscler les interventions dans les ports et les aéroports. Il l'a dit à l'occasion de sa troisième réunion à l'Élysée consacrée à la lutte contre le narcotrafic. Un chiffre qui est lui supérieur aux attentes du gouvernement, c'est celui de la croissance dévoilée ce matin par l'INSEE, plus 0,9% sur le début de l'année 2025. On y revient tout de suite après ce journal avec Manu Le Chypre. Il est 8h02 sur RMC et c'est une décision de justice qui pourrait créer un précédent, la condamnation récente de Peugeot par la cour d'appel de Toulouse pour publicité mensongère. Romain Houg, le constructeur, va devoir rembourser l'un de ses clients car le véhicule électrique qu'il lui a vendu n'a pas tenu ses promesses en matière d'autonomie.
Oui, l'histoire commence en septembre 2019 lorsqu'une entreprise de construction fait l'acquisition d'un Peugeot e-partner pour l'un de ses salariés qui en a besoin pour ses trajets professionnels. 140 km par jour. Peugeot, dans sa documentation technique, indique que le véhicule peut parcourir jusqu'à 170 km par jour. Sur le papier, c'est donc tout à fait adapté, sauf que voilà, quelques mois plus tard, le salarié constate que l'autonomie réelle est bien plus faible. Une expertise est réalisée, le constat est sans appel. Le véhicule présente une autonomie inférieure de 23% à celle présentée par Peugeot. L'entreprise saisit la justice. La cour d'appel de Toulouse condamne Peugeot pour manquement à son devoir d'information précontractuelle. Les magistrats estiment que la brochure mentionnant une autonomie de jusqu'à 170 km/h sans autre information ne constitue pas une information suffisante. Le constructeur est finalement condamné au remboursement du véhicule et de tous les frais engagés pour les procédures judiciaires. Cette décision pourrait amener les concessionnaires à reconsidérer leur marketing qui cherche parfois à rendre leurs véhicules électriques plus séduisants qu'ils ne le sont en réalité.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Qu'ils soient électriques ou non, les véhicules qui se garent sur les parkings des hôpitaux publics pourraient bientôt ne plus avoir à payer leur stationnement. La proposition de loi validée hier par l'Assemblée prévoit de ne plus faire payer patients et personnels. Les visiteurs, eux, auront droit à 2 heures gratuites. Et même si le texte doit encore passer par le Sénat, il fait déjà beaucoup réagir devant les hôpitaux, notamment à Lyon, Vincent Chevalier.
Après un tour à l'hôpital pour une prise d'information médicale, place à la douloureuse pour Adem.
On est 1h30.
3,35.
Facture moins importante qu'attendue, mais avec la nouvelle loi, il n'aurait rien payé. Et pour les visiteurs, le texte prévoit la gratuité du parking pendant 2 heures.
S'il y a quelqu'un qui est hospitalisé là, ça serait bien que ça soit gratuit. Ouais.
Un avis partagé par Gilles.
Si on vient de rendre visite, on vient pas de bon cœur, quoi. Donc c'est qu'on est obligé.
Et pour Guy, cette gratuité sous condition vient mettre fin à une injustice.
C'est une bonne chose. Il faut en arriver là.
toute façon, on est racketté un peu de partout, hein, donc le problème, c'est ça. Hein.
Une loi moins bien reçue par d'autres, comme Cédric Lucier, directeur général du groupe hospitalier Nord-Essonne.
C'est une nouvelle inquiétante.
Il y a un an, l'hôpital a fait appel à un opérateur privé pour construire et gérer le parking, un projet à 6 millions d'euros.
Si demain, on nous demande de compenser financièrement, ce sera pour nous l'équivalent de 6 postes d'infirmiers qui devront être supprimés si nous n'avons pas de ressources nouvelles.
Autrement dit, une compensation de l'État prévue par le texte, mais sans montant défini. Le gouvernement s'était d'ailleurs opposé à la loi par crainte de ses conséquences sur les finances publiques.
Donald Trump espère ne pas avoir à frapper l'Iran, mais montre quand même les muscles ce matin en rappelant la puissance financière et militaire des États-Unis après la menace hier de Téhéran de frapper les bases et porte-avions américains en cas d'attaque de la part de Washington. Il est 8h05 et c'est la bonne nouvelle du matin. Il n'y a plus aucun département en vigilance orange au cru. L'Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont sortis d'affaires, en tout cas en théorie, car en pratique, la pluie continue de tomber sur la Bretagne. On attend 10 à 20 mm supplémentaires aujourd'hui. Martin Lange, vous êtes en direct de Redon à l'est de Vannes pour RMC et la prudence reste de mise ici.
Oui Élise, avec un pic de crue qui était attendu très tôt ce matin. Alors ça n'a pas débordé mais les habitants restent sur le qui-vive. À l'image de Michel, il tient un bar tabac à deux pas du port.
C'est sûr, on pense à l'année dernière, quoi. On est inquiet. Moi le commerce, j'ai pas été inondé mais... commercialement on a été impacté, quoi. On n'avait plus les clients qui pouvaient passer. Oh, on va croiser les doigts.
Les inondations, il y a un an tout juste, hein, qui restent dans toutes les mémoires ici. 500 personnes avaient dû être relogées à Redon et dans sa petite couronne. Alors pour éviter une nouvelle catastrophe, la préfecture et la mairie ont pris toutes les précautions avec notamment des barrières anti-inondations qui ont été montées sur les quais pour les surélever d'une cinquantaine de centimètres. La Croix-Rouge est aussi mobilisée avec 50 places d'hébergement d'urgence. Un dispositif exceptionnel qui devrait être prolongé durant le week-end alors que de nouvelles pluies et des grandes marées sont annoncées en Bretagne.
Martin Lange en direct de Redon pour RMC. Il est 8h07. Allez, on file tout de suite à l'Open d'Australie. Retrouvez Eric Salio, l'envoyé spécial d'RMC pour la première demi-finale homme entre Alcaraz et Zverev. Tout allait bien pour l'Espagnol, mais le vent est peut-être en train de tourner, Eric.
Oui, parce que Carlos Alcaraz est en souffrance physique. Il est mené 2-0, 6-4, 7-6. Et puis, il y a eu une attaque de crampe à la fin du troisième set. Il n'a pas pu jouer le tie-break à son meilleur niveau. Donc, Zverev a recollé à 2-1. Alcaraz est mené 2-1 dans la quatrième manche, mais on le voit vraiment en souffrance. Il vient d'avaler, selon moi, une fiole de jus de cornichon. C'est la recette miracle pour lutter contre les crampes. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? C'est la grande question. On est à 3h30 de jeu.
Merci Eric Salio. En Ligue des Champions, c'est à midi que les deux derniers clubs français engagés, Paris et Monaco, connaîtront leurs adversaires en barrage. Et les deux clubs tricolores pourraient bien s'affronter. Tirage au sort à vivre sur RMC. Tout comme celui de la Ligue Europa pour Lyon et pour Lille qui se sont qualifiés hier soir.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 8h08, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
La croissance économique, les chiffres viennent de tomber, c'est pas terrible quand même Emmanuel.
Oui, effectivement, la fin d'année a été un peu décevante. L'activité n'a progressé que de 0,2% au quatrième trimestre. Il faut rappeler que les prévisionnistes s'attendaient à une fourchette entre 0,2 et 0,4. Donc on est plutôt dans le bas de la fourchette anticipée. Les entreprises ont poursuivi leur effort d'investissement, mais un peu plus prudemment qu'en début d'année. Elles sont aussi un peu plus méfiantes sur l'emploi. En témoigne l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi publié hier. On est à plus de 2% hors effet de l'intégration des allocataires du RSA au dernier trimestre. Les ménages ont dépensé un peu plus, mais sans vraiment reprendre le chemin des magasins. Ils ont dépensé plus en énergie, ils ont dépensé plus en transport, mais ils n'ont pas vraiment été dans les boutiques. Même dans l'enseigne préférée des Français qui est Action, eh bien, les ventes ont reculé en fin d'année. Heureusement qu'on a pu compter sur le commerce extérieur en ligne avec l'amélioration d'ailleurs de la compétitivité du Made in France annoncée par l'Institut Rexecutière.
Il reste quelques secteurs dynamiques.
Oui, alors la fin d'année a été plutôt favorable aux services. Par contre, elle n'a pas été très favorable à l'industrie dont la production a légèrement baissé, tirée vers le bas par l'automobile notamment. Ça va un petit peu mieux pour la construction qui s'est plutôt stabilisée et ce sont donc les services qui ont tiré l'activité.
Qu'est-ce que ce ralentissement du dernier trimestre 2025 annonce pour 2026?
Alors, c'est là où il est intéressant, parce qu'en fait, pour 2025, le dernier trimestre, ça n'a pas beaucoup d'impact. En revanche, pourquoi il est fondamental? C'est pour l'élan qu'il transmet à l'année 2026. Donc l'année 2025, elle se termine sur 0,9, on s'y attendait. Et là, bah, disons qu'on est dans les temps de passage intermédiaires du gouvernement pour atteindre les 1% de croissance prévue sur l'année 2026, fondamentale si on veut tenir aussi nos objectifs budgétaires. Mais attention, ce sera quand même pas facile à aller chercher les 1% sur l'année. Ça suppose une accélération de la croissance au premier semestre et tout dépendra en fait de ce que feront les ménages. Est-ce qu'ils vont enfin baisser la garde du côté de l'épargne pour dépenser plus? Du côté des entreprises, on sait qu'on pourra compter sur elles. Elles sont obligées de toute façon d'investir.
Merci beaucoup Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, il est 8h10 sur RMC. Un mot pour vous dire que nous sommes le 30 janvier et en ce jour, eh bien, c'est 7 mois jour pour jour. Ça fait 7 mois jour pour jour que notre confrère Christophe Glaize est détenu en Algérie. Je voudrais en dire un mot et vous dire le soutien d'RMC à notre confrère. Une soirée a été organisée hier pour réclamer la libération de Christophe Glaize, qui travaille pour SoFoot. RMC s'y associe, évidemment. Aucun journaliste ne devrait être derrière les barreaux pour avoir fait son métier. Soutien total à Christophe Glaize, donc détenu depuis 7 mois en Algérie. Il est 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Et puis, à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le candidat de gauche à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Juste après, on retrouvera la semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup, c'est tous les jours sur RMC à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Tous les jours.
C'est tous les jours qu'il est avec nous.
Salut
Arnaud.
Y compris aujourd'hui, le vendredi 67 janvier. Ça n'en finit pas. On a souffert toute cette semaine. En plus, on est crevé. Apolline, elle est malade. Moi, j'ai eu la grippe. Notre directeur, quand il parle de notre plateau, il est saoulé.
Et tout s'y crache sur lui. Voilà.
On a eu une semaine difficile. Alors c'est relâche aujourd'hui. Je propose qu'on parle de sujets légers. On se détente, on va causer amour et gens tout nus. L'Assemblée nationale a voté la fin du devoir conjugal. Oui, alors quand je dis amour et gens tout nus, l'Assemblée nationale, c'est pas eux qui sont tout nus, c'est qu'ils ont voté la fin du devoir conjugal. Vous n'êtes plus obligés de coucher avec votre conjoint quand vous êtes mariés. Et c'est là qu'on voit que l'Assemblée est déconnectée du réel des Français. Depuis quand les gens mariés ont encore une activité sexuelle? Non, je veux dire, ils en ont une, mais pas l'un avec l'autre. C'est les voisins qui profitent. Non, mais vous, vous bossez dans les médias, vous devez montrer l'exemple, et puis vous êtes parfait, mais les gens normaux comme nous. La fête des voisins, c'est plus sympa comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça mignon, hein. Ceci dit, les couples qui couchent encore ensemble quand ils sont mariés depuis 50 ans, ils sont ensemble le matin.
Oh, Robert! On est tout nus! Oui! Aïe, attention, tu as marché sur un de mes testicules. Oh. Fais gaffe, tu as un de tes seins qui trempe dans le café, tu vas te brûler.
Ça a son charme,
c'est mignon, c'est attentionné.
C'est attentionné, exactement. C'est bien de se réserver des petits moments complices comme ça. Alors en Tanzanie, ils avaient une idée pour aller plus loin que nous. L'État avait diffusé la liste de tous les hommes mariés pour lutter contre l'infidélité.
Non.
Si, ils avaient fait ça.
Sur fichier.
Un fichier, on pouvait googler le nom du gars dedans. Et donc en fait, ils ont plutôt lutté contre la fidélité parce que moi, je me suis jamais autant fait draguer depuis que je porte une alliance. Hein, d'ailleurs, je suis dégoûté, hein, évidemment. Si les jeunes célibataires nous écoutent, mettez une fausse alliance, vous allez vivre votre meilleure vie. Alors les députés, eux, ils se sont bien amusés. Les députés, ils ont
quel
parlé
beau message.
Si des jeunes nous écoutent, ça leur apprend la vie. Alors des députés, ils se sont bien amusés cette semaine. Ils ont parlé amour et tout ça. Ils se sont plus amusés que les sénateurs qui, eux, ont rejeté la loi sur l'aide à mourir.
Ah oui, c'est autre chose. Ouais.
Alors bon, la loi, c'est l'aide à mourir, c'est déjà un sujet très épineux pour les sénateurs. La mort, puisqu'ils sont concernés dans pas longtemps. Et ils privilégient la vie plutôt que la mort. Ils sont opposés à ce qu'on meure assisté. Eux, en tant que sénateurs, ils préfèrent vivre en étant assisté. La droite a voté contre, parce que les Français n'ont pas besoin d'une aide à mourir. Ça suffit l'assistana maintenant. Nos grands-parents, ils y arrivaient tout seuls. En plus, quand l'État progresse sur l'aide à mourir, les gens râlent. Hein. Regardez aux États-Unis. La police de Donald Trump a aidé plusieurs personnes à mourir. Tout le monde trouve ça affreux, c'est du deux poids deux mesures. Enfin, je les trouve cruels quand même, les sénateurs, parce qu'ils ont forcément quelqu'un dans leur entourage qui veut mourir, leur famille déjà.
Ouais.
Tu veux que je te raconte ma journée au Sénat? Oh, je préfère mourir. Faut aider ces gens-là.
François Ruffin, Arnaud a annoncé sa candidature à la présidence de la République et il souhaite être payé au SMIC.
Avec des Marseillaises au SMIC.
Ah, ouais.
Voilà, le gars rêve d'être président ans et rêve d'être payé au SMIC. Bonne nouvelle, François, il y a un de tes deux rêves qui va se réaliser. Un smicard à l'Elysée, ceci dit, c'est pas si mal. Hein, c'est à la bonne franquette, il va recevoir le roi d'Angleterre, il va lui taper dans le dos. Hey Charlie, assieds-toi, je te fais des knackis. Il reste des nouilles. En plus, les Anglais sont déjà habitués à mal manger, ça ne changera pas. Non, Ruffin, il va se pointer à Davos en jogging pantoufle avec un pull trouvé chez Emmaüs. C'est pas plus con que les lunettes de Tom Cruise, hein. Ça fera le buzz, tout pareil. Kadhafi, il a dormi dans une tente dans les jardins de l'Elysée. Ben voilà, Ruffin, il va déplier sa tente quechua sur les pelouses de la Maison Blanche. C'est pas plus bête. C'est je suis désolé, bête. C'est pas plus bête.
Alain Duhamel sort un livre, ça s'appelle Les Politiques, Portraits et Croquis.
Oui. Portraits et Croquis. Une galerie de portraits au vitriol sur les politiques actuelles. Il m'a dit « Oh, jeune chroniqueur, voici mon dernier grimoire. Des portraits sans concession. Jordan Bardella, il est nul. Darmanin, il est nul. Boris Vallo, il est nul. Une bonne tête de gland même, si tu veux mon avis. Bayrou, il pue.
Non.
Mélenchon, ses dents, on dirait Mariupol, mais sans la neige. Mathilde Panot, grosse... Bon, ça va, là, on va pas tout dévoiler maintenant. Il faut qu'il reste du suspense pour ceux qui vont acheter le bouquin. Enfin, voilà, c'est un retraité comme un autre. Il fait des listes de gens qu'il aime pas. C'est sympa qu'il sorte un livre. C'est sympa d'avoir des nouvelles d'Alain Duhamel. Parce que depuis qu'il a pris sa retraite en juin dernier, vous vous souvenez, en fait, il avait pris sa retraite en juin dernier. Ouais, depuis 12 émissions par semaine sur BFM, des éditos, des analyses 7 jours sur 7 et un 137e bouquin et bientôt un podcast intitulé « Tous des cons, abonnez-vous ». Et il lance aussi son OnlyFans coquin. Il est partout. Pour nous expliquer ce qu'il a fait. J'ai interviewé Mitterrand et Chirac et Charlemagne et Aménophis IV et Jeanne d'Arc. La vraie, hein, Jeanne la Pucelle. D'ailleurs, après notre rendez-vous, on l'appelait juste Jeanne.
Oh non.
La Vierge Marie, pareil. Quelle légende, quand même. Quelle légende. Allez, à lundi, bon week-end.
À lundi, Arnaud Demange, qu'on retrouve aussi en podcast à tout moment, bien sûr. Et il sera en tournée, notre Arnaud Demange national. En France, partout, à Rennes, ailleurs, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, un spectacle RMC. Il est 8h20 au 32-16, c'est Bruno. Bruno qui nous appelle, qui est un ancien gendarme. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Bruno, vous vouliez parler aussi de la drogue. Vous avez été confronté à ces questions-là quand vous étiez au travail.
Oui, tout à fait. Quand j'ai été au travail, tout à fait. Mais là, ce qui m'interpelle le plus, c'est que j'ai une fille qui travaille en EHPAD.
Oui.
Et elle avait des collègues qui venaient, qui consommaient du stupéfiant directement sur place, quoi.
Oui. Ah, dans l'EHPAD, vous voulez dire au boulot.
Voilà, dans l'EHPAD, au boulot.
Donc, vous faites partie de ceux, je précise effectivement ce qui se passe, dans le Var, une décision a été prise pour dénoncer en quelque sorte, alerter en tout cas l'employeur dans certains métiers, comme par exemple la police ou les conducteurs de bus ou les métiers de la santé, si l'un de leurs salariés est consommateur régulier de drogue. C'est ce que vous dites voilà. Au fond, vous estimez, vous Bruno, qu'il faudrait dénoncer?
Bah, tout à fait. Enfin, eux, ils ont fermenté à l'employeur, et ils ont demandé des rapports, donc elles ont fait des rapports et tout, en expliquant et que c'était limite après derrière du mauvais traitement pour les résidents, voilà. Que c'était limite du mauvais traitement, donc elles ont fait remonter. La direction, ils ont simplement, ils l'ont licencié, terminé, quoi. Ouais. Alors que peut-être que bon, la licencier, oui, certainement. Mais derrière, le signaler, faire remonter, non pas pour qu'il y ait une répression.
Oui, vous dites, il n'y a pas forcément besoin du licenciement, mais au moins qu'on lui dise, bah, tu fais pas ça sur le site au boulot, quoi.
Ah, mais ses collègues, les collègues lui disaient, mais elles s'en foutaient, quoi. Hein, donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut bien agir.
Mmh. Ouais. Donc, vous, en tout cas, vous faites partie de ceux qui estiment qu'il faut effectivement alerter.
Et donc, c'est pour ça qu'elles ont alerté la direction. La direction l'a simplement licenciée, alors que peut-être que si on avait essayé... Enfin, je dis pas que ça marche à tous les coups. Moi, j'ai été confronté de nombreuses fois à tout ça, où justement des personnes ont été condamnées à des injonctions thérapeutiques.
Oui.
Ça n'a pas tout le temps fonctionné, mais au moins si sur... je sais pas exactement le pourcentage, mais sur 10, on arrive à en sauver un, c'est déjà pas mal.
Bah oui, ce serait déjà pas mal, effectivement. Cette question aussi d'accompagner, mais aussi de protéger. La question, c'est aussi la question de protéger, évidemment, les usagers. C'est-à-dire là, on parlait des résidents. Quand on est chauffeur de bus, par exemple, cette question, elle peut aussi avoir un enjeu sur le bon fonctionnement ou pas du service. C'est-à-dire, si on fume du cannabis et qu'on est chauffeur de bus, évidemment, ça peut avoir des conséquences. Merci infiniment, Bruno, d'être passé par le 32-16, Bruno. Donc, gendarme retraité dans l'Allier. Il est 8h20. 22 sur RMC, 23 maintenant. Dans un instant, mon invité, c'est Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, c'est le candidat à la succession d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, candidat de la gauche unie hors LFI, voilà comment il le dit. Hier soir, peut-être certains d'entre vous ont regardé Cache Investigation, vous l'avez peut-être vu, sur la question des dérives et des violences, y compris sexuelles, contre les enfants dans le périscolaire à Paris. Il dit, Emmanuel Grégoire, que ça lui a fait honte. Ses réactions et ses explications dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
La dernière étape pour en finir avec le marathon budgétaire. Sébastien Lecornu va déclencher ce matin un dernier 49-3 sur le texte, ce qui devrait l'exposer à de nouvelles motions de censure d'une partie de la gauche et du RN. Si elles sont rejetées, le budget sera définitivement adopté. Alex Préti était un agitateur, peut-être un insurgé aux yeux de Donald Trump. Une nouvelle vidéo lui fait perdre beaucoup de crédit, écrit le président américain. Vidéo dans laquelle on voit cet infirmier de 37 ans se rebeller contre les agents de l'ICE 11 jours avant sa mort à Minneapolis. La météo, une journée encore très perturbée avec beaucoup de pluie sur une large moitié ouest avec beaucoup de vent. Les températures en hausse cet après-midi, 7 à Strasbourg, 11 à Paris, Brest et Limoges, jusqu'à 16 degrés à Perpignan.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
RMC, Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Il est 8h29. Bonjour Emmanuel Grégoire.
Bonjour.
Vous êtes candidat à la mairie de Paris. Vous êtes député socialiste de Paris. Vous êtes le candidat de la liste qui s'appelle Gauche Unie, avec des alliés de gauche, sauf LFI. On va évidemment dans un instant voir pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on vote pour vous. Mais d'abord, cette question, vous l'avez sans doute regardée hier, Cache Investigation, nos confrères de France 2 qui ont consacré un de leurs numéros au scandale dans le périscolaire. Et au scandale dans le périscolaire, notamment à Paris, nouveau volet de cette enquête qui montre qu'il y a des dysfonctionnements majeurs. Certains de vos adversaires parlent même d'un système qui ne fonctionne pas. Comment vous réagissez ce matin ?
D'abord, les images que j'ai vues sont scandaleuses. Je n'ai pas découvert tout hier soir, puisque depuis plusieurs semaines, un certain nombre d'affaires sont remontées. Je me suis fait deux observations. La première, c'est chaque cas individuel qui remonte démontre des manquements graves de procédures mal appliquées, de manquements dans les procédures et, j'allais dire, traduit une sorte d'omerta systémique. Je le redis parce que c'est un sujet qui me touche. Quand on voit l'accumulation des affaires Bétaram, affaires Stanislas, des affaires dans les écoles publiques à Paris, mais aussi, vous le savez, ailleurs, ça traduit deux choses. La première, c'est que l'enfance est le monde du silence et que s'y déploient des comportements inacceptables qui vont de violences parfois verbales et comportementales graves, mais jusqu'au cas évidemment les plus extrêmes, et je pense en particulier à la pédocriminalité. Je pense que la prise de conscience doit être générale. J'y prendrai ma part évidemment de façon absolue comme maire de Paris. Il faut revoir tout de fond en comble. Il faut revoir le recueil de la parole de l'enfant. Il faut revoir toutes les procédures. Il faut faire du contrôle externe de la bonne application de ces procédures. Il faut recruter des gens qui soient plus fidélisés, mieux rémunérés. Il faut également réorganiser les choses pour éviter que des risques, entre guillemets, soient aussi manifestes dans la prise en charge.
Vous avez parlé d'une omerta systémique. Évidemment, vous dites, on va tout changer. Vous dites aussi que vous êtes particulièrement troublé, et on le sait, vous l'avez dit, vous avez vous-même révélé avoir été victime enfant. J'entends la gravité de ce que vous dites, mais vous avez sans doute vu que l'un de vos adjoints, qui était adjoint à la petite enfance, au périscolaire d'Anne Hidalgo, avec laquelle vous travaillez depuis des années, Patrick Bloch, a presque constaté, semble-t-il, que malgré tout ce que vous nous dites sur les signalements qui sont pris au sérieux, plusieurs signalements
n'ont pas été suivis de fait.
Je l'ai découvert, évidemment. Je l'ai découvert, y compris comme député, puisque un certain nombre de ces cas, et notamment très graves, ont eu lieu dans ma circonscription, dans les derniers mois qui viennent de s'écouler, et qui traduisent, je le redis, des dysfonctionnements multiples, dans lesquels s'engagent d'ailleurs des responsabilités individuelles fortes. Nous avons d'abord pris la conscience que c'était maltraité. Je vous avoue que moi j'ai été 6 ans premier adjoint à la ville, et donc j'en prends ma part de responsabilité, parce que quand on est maire, on est responsable de tout, y compris de ce qui ne nous remonte pas, parce que le fait que ça ne remonte pas est un dysfonctionnement en soi. Et donc, on va absolument tout changer. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai déjà présenté plusieurs choses.
J'ai quand même
choses.
Une question plus précise sur Patrick Bloch. Est-ce qu'il fait partie de votre équipe?
Non, Patrick ne sera plus candidat. Nous allons changer les équipes qui s'occupent
il
de
l'était.
Cela. Il ne l'était pas.
Il ne l'était pas. Non. Donc, vous aviez déjà un doute?
Non, moi, je ne fais pas de cas individuels.
Non,
il
mais
n'est pas candidat.
Que
n'est
vous
pas
avez sur... dit, il y a des responsabilités individuelles. Quand il y a une responsabilité individuelle, à un moment, il faut l'assumer.
Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat sur notre liste. Mais quand un système dysfonctionne, il ne faut pas accabler une individualité. Chacun et le collectif a une responsabilité. Et je ne suis pas du genre à me défausser.
Vous avez parlé de Bétaram, vous avez parlé de Stanislas. Il s'agit là d'établissements privés. En l'occurrence, si on regarde ce qui se passe chez les gens qui dépendent de la mairie de Paris, il y a plus de 50 personnes qui travaillaient auprès d'enfants, salariés de la mairie de Paris, qui ont été mis en cause.
Oui, alors sur plusieurs années et deux sur une grosse dizaine de milliers de professionnels concernés. Parce que je veux aussi insister sur un point. Aussi scandaleux que sont toutes ces affaires, je veux aussi protéger l'ensemble des professionnels qui sont engagés avec passion, sérieux et rigueur auprès de nos enfants. Et je le dis comme père. J'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, mais évidemment, ces questions-là, je me les suis posées comme père et je me les repose encore aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous
comme
dites
père.
Aux parents à Paris qui vont douter désormais?
D'abord, qu'ils ont raison de douter et que ça fait partie aussi pour lever l'omerta systémique, douter et écouter les enfants est un élément essentiel et je suis bien placé pour le savoir. Et la deuxième chose, c'est que nous allons tout changer parce que en matière de protection des enfants, nous avons une obligation de résultat. Une obligation de résultat qui passera par des moyens augmentés, qui passera par des recrutements
renforcés. Je ne vais pas vous demander toutes les mesures que vous prendriez,
oui,
mais une en particulier sur laquelle je voudrais quand même comprendre ce que vous allez changer, c'est le recrutement.
Oui.
Puisque l'on constate, et d'ailleurs les journalistes de différents médias l'ont constaté en faisant eux-mêmes des propositions d'embauche qui ont été prises récemment,
sans qu'aucune
vérification n'ait été faite.
Par exemple, c'est totalement anormal.
Mais
c'est démontré que c'est totalement contraire aux
C'est-à-dire
règles.
C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils répondent à une annonce pour travailler auprès d'enfants et il n'y a pratiquement pas de vérification qui soit faite.
C'est scandaleux. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui est prévu. Le cadre de contrôle est celui qui a été placé depuis maintenant plus de 10 ans, qui est celui du contrôle obligatoire du fichier des infractions sexuelles pour vérifier qu'il n'y a pas d'antécédent, ce qui ne garantit pas d'ailleurs de protéger absolument
les risques.
Bien sûr, enfin,
ce serait au moins un garde-fou.
Mais c'est typiquement une procédure qui était obligatoire et qui n'était pas bien appliquée. Et donc, ça veut dire que le contrôle n'est pas suffisant. Et pour vous me demandez quelle est la mesure la plus importante. La mesure la plus importante, c'est que qu'est-ce qui provoque cela? C'est la multiplication du nombre d'intervenants, la difficulté à les fidéliser et l'organisation un peu baroque de la semaine, notamment autour de ces 2 fois 1h30 de temps périscolaire. Les mardis et vendredis. À Paris exclusivement d'ailleurs, parce que par ailleurs c'est un pataquès national puisque plus personne n'a exactement les mêmes rythmes.
J'ai même envie de vous poser la question globalement, parce que vous êtes aussi député, hein, oui. Vous avez aussi une responsabilité nationale. Est-ce que c'était pas produire une usine à dysfonctionnement que d'avoir fait des espèces de temps périscolaires comme un puzzle la semaine de nos enfants?
Je ne crois pas.
Parce que forcément vous vous retrouvez à devoir embaucher des gens qui ne peuvent pas travailler à plein temps.
Je ne le crois pas, d'abord parce que c'est le problème du périscolaire en soi de tout temps. Quand on fait des surveillances le matin, le midi, le soir.
Moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai eu des enfants aux États-Unis. Le périscolaire, c'est tous les jours de 15h à 18h. C'est quand même beaucoup plus stable comme emploi.
Enfin, le système américain, c'est dans l'école où vous étiez.
Beaucoup plus stable comme emploi. J'étais dans une école publique américaine à Washington.
Il ne dépend pas d'un temps global. D'abord, ce n'est pas le législateur qui décide de ça, c'est le gouvernement. Et le gouvernement a joué 2 mauvais coups là-dessus. D'abord, la semaine de 4 jours et demi est devenue optionnelle. Et ensuite, ils ont arrêté les cofinancements. Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on organise une convention des temps de l'enfant à Paris. Pourquoi? Il y a eu la convention nationale sur les temps de l'enfant qui recommande de maintenir les 5 jours. pour l'organisation du temps scolaire. Et donc, par contre, de nous questionner sur la façon dont c'est organisé, parce que le temps fragmenté fait qu'il y a trop d'intervenants et donc il y a plus de risques.
Emmanuel Grégoire, je le disais, vous êtes candidat à la mairie de Paris. Vous êtes donné dans certains sondages à égalité avec Rachida Dati au second tour des intentions de vote. Pourquoi voter pour vous ?
Parce que nous portons un projet de gauche, social et écologique, qui vise plusieurs choses. D'abord, nous défendons l'idée que Paris est à vous. Paris est à tout le monde et chacun a le droit d'y vivre. Et donc, c'est des politiques publiques qui sont là pour venir lutter contre les effets spéculatifs, ségrégationnistes, qui sont ceux du marché. Et donc, c'est évidemment l'axe d'abord du logement, c'est deuxièmement l'axe des services, avec notamment une mesure forte, par exemple, parmi de nombreuses mesures, mais celle-là me tient beaucoup à cœur, c'est les 2 heures de garde par semaine pour les mamans solo parisiennes. Paris, c'est une ville magnifique, extraordinaire, mais qui peut être dure quand on a pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps parfois. Et donc, on veut développer des politiques publiques qui protègent les plus vulnérables, qui protègent les plus fragiles, qui permettent aux travailleurs de première ligne de continuer à habiter à Paris. C'est pour ça qu'on continuera à faire du logement social, qu'on continuera à se battre pour la transition écologique, de se battre pour les transports publics, etc. C'est un projet de gauche, c'est une vision de la ville et de l'avenir et du vivre ensemble. Et on entend faire entendre présenter
vos adversaires ont l'air presque d'être plutôt du côté de la gauche. Quand on entend les mots de Sophia Chikirou à votre encontre, et d'ailleurs elle a été une des premières à réagir à Cache Investigation hier en demandant même une organisation. Elle parle d'un système, mais tous les jours elle dit de vous, et d'ailleurs c'était une de ses motivations au départ, que sa candidature vise à ce qu'il n'y ait plus de socialistes à la tête de Paris.
Elle l'a dit exactement avec ces mots-là.
Ça veut dire que c'est presque aujourd'hui votre premier adversaire.
Bah, en tout cas, que manifestement, elle préfère que ce soit Rachida Dati la maire que moi, parce que ça se jouera entre moi et Rachida Dati. Voilà. Et donc, quand Sophia Chikirou et ceux qui la soutiennent théorisent cela, c'est-à-dire que pour l'avenir de Paris, pour l'avenir des classes populaires de Paris, pour l'avenir des quartiers populaires de Paris, il est mieux d'avoir Rachida Dati comme maire qu'Emmanuel Grégoire, je pense qu'on dénonce assez de façon évidente le cynisme et l'opportunisme d'une candidature qui ne sert
donc,
pas pour les gens.
Vous nous redites donc qu'il n'y aura aucune alliance avec LFI.
Je vous le confirme.
Vous avez entendu les mots. Et
y compris avec les mots que vous venez de rappeler. Enfin, comment voudrais-je m'associer avec quelqu'un qui n'a pas d'autre objectif que de nous faire perdre?
Mais peut-être qu'à la fin quand même vous y viendrez, non? Mais enfin, si je vous dis ça, c'est parce que, j'en écoute le secrétaire général de votre parti, secrétaire général du Parti Socialiste, Pierre Jouvet, lundi, qui a affirmé que la direction n'imposerait pas de stratégie à ses candidats, globalement, pas de stratégie d'alliance, mais lorsqu'il est interrogé sur est-ce qu'il y aura des accords avec LFI, alors, il dit, dans la plupart des cas, non, mais peut-être dans certains endroits.
Bon, ça,
c'est votre parti.
Oui, très bien. Enfin, en l'occurrence, nous sommes maîtres localement de nos stratégies. Et j'imagine que Pierre Jouvet, j'avais pas cette déclaration en tête, parle des endroits où il y a un risque de victoire de l'extrême droite. Et moi, je ne juge pas ce qui se passe ailleurs. À Paris, les choses sont claires.
Certains de vos alliés aujourd'hui considèrent que Rachida Dati, c'est l'extrême droite.
Bah, à bien des égards, elle cède aux sirènes de l'extrême droite, y compris en ne fermant pas la porte à Sarah Knafo de façon claire. Et d'une certaine manière, ce qui m'est demandé à moi lui est plus mollement demandé à elle. Et pourtant, elle a bénéficié de nombreuses heures d'exposition.
Oh, j'imaginais bien que vous alliez, m'en parler, Emmanuel Grégoire. Mais vous êtes là ce matin.
C'est très gentil. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous. Mais je veux quand même souligner qu'il y a une disproportion d'exposition. On a fait 4 heures d'antenne dans le groupe dans la semaine. Et c'est bien heureux, je le dis pour moi.
Et vous savez que BFM TV et RMC respectent scrupuleusement les règles de l'ARCOM. Nous sommes
les règles de l'ARCOM, c'est que le candidat qui est en tête des sondages et 20 minutes d'antenne et celle qui est loin derrière et 4 heures, ça interroge effectivement sur les critères de l'ARCOM, mais je connais ces règles.
Vous connaissez ces règles et vous reconnaissez qu'on les respecte parfaitement.
En tout cas, j'ai saisi l'ARCOM pour le vérifier. Je sais bien. Ce que je veux dire, c'est que Rachida Dati, évidemment, qu'elle est aujourd'hui dans une course à l'échalote avec Sarah Knafo, qu'elle ne ferme pas de façon claire l'hypothèse d'une alliance et qu'elle met en menace ce qui est l'essence même de l'histoire de Paris, c'est le fait que c'est un terrain... qui a accueilli des réfugiés et des gens qui ont fui le monde entier, qui ont contribué de façon extraordinaire à la vitalité économique, culturelle, politique de notre ville. C'est quelqu'un qui va voir les problèmes, et je les connais, les problèmes. Je les connais, il y en a de nombreux à régler. Évidemment, le sujet de la très grande précarité et mon engagement pour lutter contre le sans-abrisme. Mais qui font, d'une certaine manière, des fausses promesses qui sont celles d'évacuer les gens ailleurs.
Malgré tout, parce qu'on est vraiment dans une question très politique et que Paris en est évidemment la figure de proue. Quand vous dites qu'elle est en train, en tout cas, de faire ce jeu-là de l'extrême droite, quand vos deux alliés, David Belliard et Yann Brossia, régulièrement disent que Rachida Dati, c'est, on vous met un signe égal entre Rachida Dati et l'extrême droite, est-ce que ce n'est pas poser les jalons, le jour venu, de dire, ben, face à la menace de l'extrême droite Rachida Dati, finalement, il faut faire alliance avec LFI.
Non, l'objectif, c'est de souligner l'ambiguïté de Rachida Dati. L'ambiguïté de Rachida Dati, ce qui nous a profondément choqués, notamment qui nous a évidemment incité à analyser ça comme une espèce de glissement à l'extrême droite, c'est les vidéos horrible quand elle va auprès de migrants qui sont sous des tentes et qu'elle leur dit « je vais vous faire dégager ». Mais dégager où ? Dégager ailleurs qu'à Paris ?
C'est-à-dire mais les pousser dans les quartiers populaires
à l'extérieur.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Évidemment, les mettre à l'abri, je le sais. Je connais parfaitement la situation.
Parce qu'ils sont là depuis des années. Pas forcément les mêmes.
D'abord, c'est la compétence de l'État. Mais je ne m'en exonère pas. Il n'y aura pas de tentes dans ma ville, dans les rues. Parce que je considère que c'est la mise en scène de notre propre impuissance.
Mais c'est ce que disait Anne Hidalgo.
Ça engage la mienne
et les tensions
également.
Sont là.
Ça engage la mienne également. Donc voilà. Mais moi, je n'étais pas maire. Donc demain, j'espère l'être. Quand je serai maire, il n'y aura plus de tentes dans l'espace public. Je le dis dans un souci d'humanité, mais aussi dans un souci de régulation de l'espace public et de mise en scène, d'une certaine manière, exploitée à outrance par l'extrême droite. D'une forme de déclinisme ou de grand remplacement qui n'existe pas. Nous parlons de quelques centaines de réfugiés, en particulier ce statut des jeunes en recours, c'est-à-dire ceux qui sont dans un nid. Pourquoi ils sont dans la rue ? Parce qu'ils ne sont ni mineurs, ni majeurs, ni bénéficiaires des prises en charge pour les mineurs, ni admissibles à l'hébergement d'urgence, compte tenu y compris de sa saturation. Il y a 3500 SDF. On verra, il y a eu la semaine dernière la nuit de la solidarité qui nous permettra d'avoir une vision actualisée.
Et vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui nous promettait qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue.
Mais c'est un échec majeur d'Emmanuel Macron. Je l'ai
interpellé. Vous arriverez à le faire.
Nous l'avons interpellé. Nous ouvrirons des centres et je le ferai avec les réseaux associatifs. Et quand on est politique, on n'est pas forcé, évidemment, d'être cru sur parole. Enfin, il y a une présomption de crédibilité sur les projets sur lesquels on s'engage. Et après, on en est comptable. Emmanuel Macron en est comptable et j'en serai comptable demain si je manquais à ma parole. Et je l'ai dit de façon raisonnable. Je n'ai pas de baguette magique. Je ne peux pas le faire du jour au lendemain. Et donc, l'objectif numéro un, c'est pas d'enfants à la rue à l'hiver 2026. Et donc, c'est quelques centaines de places à mobiliser dans un partage de responsabilités qui est ubuesque à la française de qui est responsable de quoi. Moi, je vais vous dire, à Paris, je suis responsable de tout. De tout. Et je ne m'exonère de rien, ni en disant c'est pas moi, c'est la préfecture de région, c'est la préfecture de police, c'est la région. Nous travaillerons ensemble pour résoudre les problèmes, quels qu'ils soient.
Une question sur les combats de vos alliés. Vous avez dit moi jamais avec LFI, par exemple. Vous avez vu sans doute que vos deux alliés, David Belliard et Yann Brossa, l'un de leurs premiers déplacements a été d'aller soutenir la librairie Violette, qui est une librairie qui se définit comme féministe, lesbien, LGBTQIA+, qui avait fait l'objet d'une perquisition pour avoir mis en vitrine un livre pour enfants dans lequel Israël est en quelque sorte rayé de la carte. Ça s'appelle From the River to the Sea. Ce livre avait été interdit d'importation par la Direction de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse. Cette librairie vient d'être sélectionnée pour continuer, semble-t-il, à percevoir des subventions de la mairie de Paris dans le cadre d'un investissement de 482 000 euros à 40 librairies indépendantes. Vous continuez donc à subventionner cette librairie.
Oui, je l'assume totalement parce que la façon dont vous le racontez est juste, mais pas tout à fait la bonne genèse. Ce livre est un scandale. Et moi, j'ai aucune ambiguïté là-dessus. Ce livre est un scandale. Je l'ai pas eu dans les mains moi-même. Donc, vous voyez, par ailleurs, beaucoup de gens disent des choses, etc. J'ai essayé de l'avoir.
Eux-mêmes le reconnaissent, hein.
Oui, mais
donc, je suis convaincu qu'on mettait un doute. C'est-à-dire que, ils le disent. Ils le vendent même de manière bénévole. Les libraires l'ont dit. Elles ont choisi de vendre ce livre de façon bénévole, sans percevoir aucune marge. Donc, vos subventions à cette librairie.
Elles ne le vendent plus.
Parce qu'elles n'en ont plus de stock.
C'est pas l'éditeur. Et deuxième chose, ce n'est pas vrai de dire qu'il avait été interdit. Il ne l'a pas été pendant très longtemps et il ne l'a été que le lendemain de la perquisition policière. Moi, je connais l'affaire très en détail.
J'imagine.
Et donc, rien n'est simple dans la vie. Moi, ce que je sais, c'est que quand il y a des flics qui commencent à aller dans les librairies pour juger de ce qui est bon ou pas et faire des perquisitions sur la base d'éléments qui ne sont pas objectifs, c'est-à-dire il n'y avait pas l'avis de la commission qui nationalement est chargée de dire est-ce que ce livre ou pas est autorisé. Moi, j'ai un principe simple, s'il y a du droit, on respecte le droit. Et en l'occurrence, la perquisition policière m'a semblé disproportionnée au regard de ce qui a été fait. Deuxièmement, ce livre est un scandale, et moi je n'ai aucun état d'âme à dire que quand des livres entretiennent l'ambiguïté sur, entre guillemets, le droit à exister d'Israël, j'ai aucun problème. Quand, par contre, on a le droit de faire des livres qui défendent les droits des Palestiniens, parce que c'est aussi ma position de défendre l'État d'Israël et de défendre le droit des Palestiniens à avoir un État. Moi, je vais vous dire, ce sont des sujets qui sont faits pour lancer de l'essence au milieu du débat public. Non, mais je ne vous donne pas ma position, je sais que ce n'est pas la vôtre.
Ils sont allés soutenir
un principe auquel je suis très attaché et qui restera le mien, c'est que la police qui perquisitionne des librairies sans base légale objective, en fouillant tous les cartons, etc., ça me fait peur. Ça me fait peur. Et donc, en l'occurrence, ils avaient raison d'y être. Le maire du 11e, François Vauglin, y était également. J'y étais pas moi-même. Mais
en tout cas, vous soutenez cette...
Oui, je soutiens les librairies indépendantes. Et la seule raison pour laquelle je ne les soutiendrai pas, c'est si elles diffusent des livres interdits. Et ça, je n'aurai pas la main qui tremble.
Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, donc, et député socialiste de Paris. Merci d'avoir répondu à mes questions. 8h48 sur RMC BFM TV.
Dans un instant sur RMC, Nicolas Canteloup, une semaine très politique, Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann ou encore Nicolas Sarkozy sont passés par la semaine face à Canteloup.
RMC. Une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Raphaël Glucksmann était dans le face-à-face. Il est resté face à Canteloup.
Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour, quel plaisir d'être là.
Alors, vous allez pas le regretter parce que Ségolène Royal, figurez-vous, arrive. Elle voulait absolument vous dire un mot.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Oui.
Bonjour Raphaël.
Oui,
j'ai trouvé votre interview formidable, Pierre-Apolline. Oui. Non, franchement, ce sera un bonheur qu'il soit élu en 2027. Mmh. Mais bien sûr, il ne pourra pas embrasser cette fonction suprême sans une première dame qui soit à la hauteur.
Mmh. Hein, vous l'avez compris. Ah oui. Mmh. Hein, une proposition peut-être.
Bah oui, qui connaissent parfaitement les rouages du pouvoir. Hein. Et puis quand on voit comment ça évolue au Groenland, hein, je pense même qu'il serait opportun, hein, le mot est juste opportun, d'avoir une première dame qui était ambassadrice des pôles. Hein. Il n'y en a pas 36,
mais Madame Royal, Raphaël Glucksmann est en couple.
Oui, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui va arrêter un président de gauche.
Oui.
Hein. Oui. Un vrai président qui se dit de gauche, ça doit savoir tromper sa femme, pardon. Oh.
Hein, voilà, vous pensez à quelqu'un?
Non, pas du tout.
Hein. Mais il n'y a pas que lui, vous savez, Mitterrand, regardez. Il a même poussé le bouchon très loin, il avait même une fille cachée. Hein, bon, on n'en est pas là, en tout cas, voilà. Que Raphaël sache que j'ai un scooter.
Ah oui.
Je connais des bonnes boulangeries. Je suis matinal. Si vous aimez les croissants, j'ai un peu de temps, je peux livrer.
Merci beaucoup, Madame Royal. Sinon, la gauche unie a annoncé donc que la primaire pour désigner son candidat à la présidentielle aura lieu le 11 octobre prochain.
Oui. Enfin, aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est pas de trouver des candidats, hein. C'est plutôt de trouver des électeurs.
Raphaël Glucksmann est donc toujours avec nous. Et Monsieur Glucksmann, au Parlement européen, vous aviez voté pour que l'accord de libre-échange avec le Mercosur soit suspendu. Pourquoi ?
Ah, chère Apolline de Malherbe, est-ce que vous vous rendez compte que l'Argentine, le Brésil veulent exporter chez nous des tonnes de steaks qui ne sont même pas en soja ? Ni en toffee, ni en petite épeautre labellisée Moulin de Paris. Alors, je ne vous parle même pas des millions de bouteilles de vin non bio qui vont envahir les rayons de nos épiceries équitables.
Ah oui,
moi, attends, j'accorde. Moi, je soutiens
les agriculteurs. Moi, je... arrêtez, ce n'est pas drôle. Je suis né avec ça, c'est déjà dur.
Il se demande s'il doit rester là.
Il y a tout RMC qui m'a dit mais non, t'inquiète, c'est facile, c'est safe. Et ben bravo.
Moi je soutiens. Rien ne m'arrêtera, Pauline Malherbe. Ni personne. Il n'y a pas de censure. D'accord. Les agriculteurs français font un métier difficile, dur. Je le vois chaque jour. Mon voisin fait pousser du basilic dans une jardinière sous le balcon de notre immeuble du 9e. C'est compliqué. Je le vois en bas de chez nous. Il y a un peu de... 10e, pardon.
T'es encore plus bobo.
Oui,
faut cibler, là.
Oui, mais tu ne sais pas que tu vas déménager.
Apparemment.
En bas de chez nous, dans le 10e, 9e. Oui, parce que je multiplie les propriétés immobilières. Il y a un petit potager. Putain, je vais pas finir ma chronique. Il y a un petit potager citoyen.
Il n'emploie pas ce mot.
Oui, pardon.
J'ai des enfants. Non, punaise, bien les élever, moi.
Pardon, punaise. Oui, ouais. Non, mais quand je suis excédé, des fois, et à laisser, des fois, en bas de chez nous. Oui, entre la rue La Fayette et le boulevard Magenta, eh bien, que d'efforts pour arriver à faire pousser trois tomates cerises et finir cette chronique.
C'est un peu poussif, là.
Je ne
veux pas juger le travail des journalistes.
Vous allez y arriver. Nicolas Sarkozy, monsieur Sarkozy, bonjour. Votre épouse, Carla Bruni, est soupçonnée d'avoir utilisé un téléphone secret pour une opération visant à vous innocenter dans un dossier, le dossier des financements libyens.
Quelle indignité, madame Pujadas.
Oui, madame Pujadas.
Carla n'a jamais eu de téléphone secret. Qui vous a dit ça? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que Carla, elle n'avait pas de téléphone secret. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que son téléphone secret, en plus, c'était pas le sien, c'était celui de Sylvie Bismuth. Voilà. Donc, et puis, il n'y a pas de secret. Carla, je sais ce que je la connais. C'est simplement qu'au téléphone, vous savez comment elle est comme dans la vraie vie. Elle murmure. Elle parle doucement. Elle parle tellement doucement qu'on peut avoir l'impression qu'elle a quelque chose à cacher, alors que pas du tout.
Au-delà de ça, vous avez quand même engagé une procédure pour ne plus porter votre bracelet électronique.
Mais même Pujadas. Le bracelet électronique, je supporte très bien. Si j'en veux plus, c'est pas pour moi, c'est pour la France.
Ah oui.
Parce que, est-ce que vous croyez, franchement, avec la dette qu'on a, est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est utile de dépenser des milliers d'euros pour poursuivre mes déplacements, alors que pour savoir où je suis, ben les juges, il suffit simplement qu'ils dépensent quelques euros pour acheter Gala, Voici ou Paris Match.
Voilà. C'est tellement simple. Marshall nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain ?
Bonjour, Apolline. Aujourd'hui, dans les Grandes Gueules, nous parlerons d'Alex Pretty, cet homme abattu dans le Minnesota par la police américaine, avec Willy. Willy, qui vient justement de passer son permis de chasse et qui, en plus, connaît très bien l'Amérique, puisqu'il est lui-même passionné de musique country.
Ah bah oui,
et puis, nous reviendrons également sur les wagons sans enfants avec Jean-Jérôme, qui est bien placé pour en parler, puisqu'il est passionné de trains électrique. Et il adore y jouer tout seul dans le calme pendant que justement ses enfants ne sont pas là et qu'ils sont à l'école.
Ah oui,
alors, on en parlait avec Gabriel Attal. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Mais ce sera intéressant d'entendre le témoignage de Sylviane qui ne comprend pas que ce sujet soit mis à l'honneur puisqu'elle habite la Creuse et qu'il n'y a ni internet ni jeunes. Voilà, ce matin encore, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC.